c'est Info Club Sandwich.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 1er juin 2026 et vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidien d'actualité locale et associative préféré sur Radio Campus Amiens, disponible sur le 87.7 FM, en DAB+, et en réécoute sur radiocampusamiens.fr. Comme musique du jour, on vous propose Elle laisse de Colin Rayo et Walk on the Wild Side de Lou Reed. Pour l'interview du jour, je reçois Emmanuel Diane pour parler de son album Rouge. Et pour la deuxième partie de l'émission, je vous propose une chronique sur la moka. D'abord, on va commencer l'émission par l'interview.
Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Diane pour parler de son album Rouge. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Bonjour, oui, je m'appelle Emmanuel Diane, je suis médecin hématologue, c'est-à-dire que je soigne les cancers du sang, et je travaille au CHU de Tours, donc en Indre-et-Loire, et je suis ravi d'être avec vous.
Merci. Comment est née l'idée de créer l'album Rouge ?
Alors, c'est une belle histoire parce que c'est la rencontre entre un producteur qui s'appelle Olivier Loeb et moi. Ça s'est fait suite à une publication que j'avais fait sur les réseaux sociaux où je m'étais filmé en train de chanter en m'accompagnant du piano pour des congressistes d'une société savante qui s'occupe de la recherche dans le domaine de certains cancers du sang qu'on appelle les lymphomes. Et quand il a vu la publication, il s'est dit « Ah bah tiens, j'aimerais bien rencontrer ce médecin qui chante pour ses invités. » Et du coup, il a pris contact avec moi. On a pris un déjeuner pas très loin de l'hôpital. Et en se levant de table, on s'est dit, pourquoi pas créer un album de chansons d'hématologie. Et on s'est dit, allons-y.
Pourquoi avoir choisi la musique comme moyen de sensibilisation au cancer du sang ?
Du coup, les cancers du sang, c'est assez peu connu dans le grand public, en particulier parce qu'il y a très peu d'actions de communication dessus. On n'a pas de prévention de ces cancers du sang, on n'a pas de dépistage, ce sont des maladies qui peuvent arriver à tout le monde. Et pourtant, dans mon exercice professionnel, je vois de la beauté dans à la fois les progrès qu'on a au niveau des traitements, avec des personnes qui sont guéries, des personnes qui vivent très longtemps, et des personnes qui vivent en plus avec une belle qualité de vie. Et donc, on a voulu parler autrement de la maladie, et il nous a semblé, puisqu'on était musiciens tous les deux, de pouvoir chanter au sujet de cette beauté qu'on voit dans notre exercice professionnel. Et du coup, la marque d'Olivier Loeb avec qui je travaille, c'est qu'en fait, non seulement on chante, mais on chante collectivement, c'est-à-dire que quand c'est une chanson de patient, c'est des patients qui vont chanter, quand c'est une chanson d'infirmière, c'est des infirmières qui vont chanter, quand ce sont des chansons de médecins, par exemple, ce sont vraiment des médecins qui vont chanter, ainsi de suite.
Que représente le titre Rouge ?
Alors, rouge, c'est la couleur rouge, bien entendu. C'est la couleur du sang. Nous soignons les cancers du sang. Donc, du coup, comme le sang, c'est rouge, et bien, on trouve ce nom, on va dire, imposé, en fait, pour l'album. Et puis, il y a une autre dimension, c'est qu'on parle aussi du mois de septembre comme à la fois le septembre rouge, pour faire référence aux maladies du sang. On parle aussi septembre, mois des maladies du sang. Donc, pour toutes ces convergences, en fait, autour de la couleur rouge, on a tout simplement intitulé notre album Rouge.
Qu'avez-vous appris des passions qui a influencé l'écriture des chansons ?
Alors, la méthode qu'on utilise avec Olivier Loeb, c'est que les collectifs sont d'abord interviewés au sujet de leur expérience donc de patients, quand ce sont des patients, etc. Et donc, les patients, ils ont raconté en fait leur histoire. Ils ont raconté deux choses extrêmement importantes. Tout d'abord, le doute qui peut s'installer quand on se sent pas bien, avec un doute qui est mélangé d'envie de savoir et en même temps de pas avoir envie de savoir parce qu'on a peur de ce qu'un médecin pourrait nous dire quand on est plus fatigué ou quand on se sent moins bien. Donc ça, j'ai trouvé ça très humain, et c'est ce qu'on a essayé de transcrire dans la chanson donc Qui m'expliquera, qui est la première de l'album. L'autre chose que j'ai trouvé extrêmement inspirante dans le parcours des patients, c'est que lorsqu'ils sont sortis d'affaires, si je puis dire, eh bien, ils voient la vie autrement. Et souvent, ils vont s'engager dans des projets très constructifs, très, comment dire, altruistes, dans lesquels ben, ils vont peut-être rejoindre une association, faire du bénévolat, trouver des fonds pour pouvoir mieux accompagner ou mieux être utile à d'autres personnes qui vont, par exemple, traverser le même épreuve dans leur vie. Et je trouvais ça vraiment très, très inspirant. C'est aussi pour ça qu'on a voulu chanter donc ça dans l'album Rouge. C'est une chanson qui n'est pas encore publiée, mais qui va dire « Je profite ». Et donc, qui va être chantée par l'association Ellie, la même que celle qui a chanté, qui m'expliquera, et on les remercie beaucoup.
Quel titre de l'album vous touche le plus personnellement et pourquoi ?
Alors, sans hésitation, c'est le titre numéro 3 qui s'appelle « Je dirais de mon mieux ». Donc c'est l'épisode dans l'album dans lequel le patient va recevoir de la part d'un médecin le diagnostic de son cancer et des options de traitement qui s'offrent à lui. Et donc ça me touche particulièrement parce que je suis moi-même médecin et que lors de cet enregistrement de chansons, nous étions 12 médecins à parler de notre intention de faire du mieux qu'on peut pour expliquer à la fois le diagnostic et surtout l'espoir qui va avec. Voilà, donc le refrain dit « Je ferai de mon mieux, du mieux que je peux pour accueillir tes réactions et tes questions. Je dirai de mon mieux des mots d'espoir, car on veut y croire. J'écouterai tes silences, j'irai chercher ta confiance. » Donc ce sont des choses qu'on fait au quotidien, et c'est des moments qui sont très très forts émotionnellement. Et je trouve que pouvoir le chanter ensemble, c'était vraiment un moment hors du temps.
Quel impact ce projet peut-il avoir sur les personnes actuellement en traitement ?
Alors j'ai beaucoup de retours de patients qui ont soit fini les traitements, soit qui sont encore en traitement, et qui disent que ce projet les touche particulièrement parce que ils se reconnaissent en fait dans l'histoire d'Henri, hein, le patient qui est dont l'histoire est narrée de façon très 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 très, comment dire, étape par étape dans l'album. Et du coup, en fait, ce que j'ai comme retour, c'est très beau. Je me reconnais dans l'histoire d'Henri. Je verse une larme en écoutant ses chansons. Ça me donne de l'espoir. Et la dernière patiente qui m'a rappelé sur mon portable, je ne sais pas comment il l'a eu, mais il a réussi à me rappeler. Il m'a dit « Je veux absolument un DVD parce que je voudrais pouvoir regarder ça sur ma télé. »
Quel message aimeriez-vous adresser aux personnes qui viennent d'apprendre leur diagnostic ?
Je ne suis pas sûr d'avoir un message univoque parce que je pense que le message va aussi dépendre de la personnalité que de la personne que j'ai en face de moi et aussi de ses réactions. Il n'en reste pas moins que moi, ce qui m'émerveille et qui me donne beaucoup d'énergie dans ma profession, c'est les progrès thérapeutiques qui donnent beaucoup d'espoir. Donc en résumé, je crois que je dirais à la personne, il y a beaucoup d'espoir et beaucoup d'opportunités de prolonger votre vie et de le faire avec une très bonne qualité de vie, et on va s'y employer. On sera là pour vous. Vous avez en vous des richesses et des ressources assez insoupçonnées que vous allez découvrir au travers de cette difficulté pendant un moment de votre vie, et il y a un avenir.
Comment les équipes médicales ont-elles réagi lorsqu'elles ont découvert le projet ?
Ah, alors, c'était partagé. On va dire, j'ai eu beaucoup plus de gens enthousiastes en disant « Ah oui, c'est génial, oh, c'est super, on vient, on chante, voilà. » Et puis, j'ai eu aussi « Ah oui, mais non, mais moi, je chante pas, et puis bon, ça m'intéresse pas, voilà. » Puis, j'ai même eu des détracteurs qui m'ont dit « En vrai, Emmanuel, la vie, c'est pas comme ça. » Donc, j'aurais demandé juste de me laisser, de donner la permission de rêver, et puis de faire rêver d'autres, parce que je pense que pouvoir chanter ensemble et pouvoir créer comme ça des dynamiques collectives, c'est très nourrissant pour la pratique clinique, je crois.
Que révèle Rouge du quotidien des professionnels de santé que le public connaît peu ?
Alors, l'intention de Rouge, c'est de révéler et de célébrer, si je puis dire, leur engagement. Moi, ce que je vois à l'hôpital, c'est des professionnels de santé qui sont complètement dévoués à leur tâche et qui veulent faire du mieux qu'ils peuvent pour accompagner les patients, accompagner les proches et leur donner vraiment le meilleur potentiel en hématologie, mais dans beaucoup de disciplines autres aussi. Et donc ça, je pense que ça mérite d'être décrit peut-être un peu plus dans le détail que simplement applaudir aux 20h lorsqu'on a eu le Covid, et de pouvoir décrire finalement le ton le plus juste possible, c'est-à-dire avec les mots des acteurs eux-mêmes, ce qu'ils font au quotidien et comment ils s'impliquent au service de leurs contemporains. Voilà ce que j'ai vraiment envie de dire au grand public.
Comment avez-vous trouvé l'équilibre entre émotion, témoignage et qualité artistique ?
Ah, merci pour cette question. Alors, je ne sais pas si je saurais vraiment y répondre en disant comment, si ce n'est en disant que bon, on y a mis tout notre cœur avec Olivier. Et puis surtout, ce qui a été génial, c'est que les collectifs qui nous ont suivis, ils étaient à fond dedans, quoi. Et ça nous a vraiment donné énormément d'énergie, à la fois dans les images de la vidéo, mais aussi dans le son. Alors le son, juste une chose, c'est important de souligner qu'il n'y a aucun artiste professionnel, chanteur parmi ceux qui chantent, ce qui veut dire qu'on a réussi avec l'ingénieur son qui s'appelle Florian Haber et qui vraiment fait des choses absolument incroyables. Donc on a réussi à éventuellement corriger certaines voix de façon à ce que ce soit le plus juste possible et le plus impactant possible à écouter. Et puis donc après, au niveau du style, et ben en fait, très simplement, avec Olivier Love, on s'est lâché, on a essayé des choses, on a osé proposer par exemple du reggae pour J'aime l'hématologie et ça a bien plu. Ou alors on a eu un peu d'appréhension quand on a présenté aux patients la première maquette de Qui m'expliquera, parce que cette question sur le doute, on l'a traitée avec une rythmique de bossa nova qui est plutôt sensuelle, un peu festive, etc. Et donc décalée par rapport au thème. Et quand on leur a présenté ce projet, on avait un petit peu peur de leur réaction. Ils nous ont dit « Ah non, mais ça nous va, c'est décalé, ça nous plaît, on veut chanter ça. » Donc ça a été extrêmement encourageant. C'est peut-être ça la clé de votre question. Comment on a fait ? En fait, je crois qu'on s'est laissé nourrir par les mots des gens, donc leurs interviews, par leur énergie et aussi par leurs encouragements, puisque lorsque nous avons produit une maquette de chansons, systématiquement elle devait être validée par le collectif qui avait procédé aux interviews. Donc je pense que le résultat, il est avant tout collectif.
Comment espérez-vous que les auditeurs réagiront après avoir écouté l'album ?
Ah, moi j'espère qu'il soit touché. J'espère qu'il soit touché. En gros, ça me ferait plaisir qu'il verse une larme, parce que je crois que c'est un album qui parle de choses très belles, de choses très prenantes, parce que souvent, faut pas se le cacher, ça peut être des mauvaises nouvelles hein, pour les patients ou pour les proches. Mais j'espère que au moment où il verse une larme, il se sente bien. Voilà, c'est peut-être un album feel good que j'aimerais. C'est tout ce que je souhaite. Je souhaite beaucoup de bien aux personnes qui vont écouter cet album et regarder les vidéos.
Pensez-vous que l'art peut contribuer à améliorer la perception de la maladie ?
Je crois que l'art a vraiment une place dans un hôpital, dans un parcours de soins. Il y a plusieurs axes. Tout d'abord, le parti pris artistique de Rouge, c'est que plus la description émotionnelle de ce qui se vit est juste, plus le potentiel de faire du bien à quelqu'un qui est malade ou à un proche hein, de quelqu'un malade est élevé. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment essayé d'être très précis dans les termes, très ajusté dans les descriptions émotionnelles, sans injonction, sans trop de généralisation, de façon à ce que ça puisse convenir vraiment ou être représentatif du maximum des interviews qu'on a écoutées. Et donc je pense que rien que ça fait du bien. C'est-à-dire, si c'est bien expliqué, si c'est bien dit, ça fait du bien. Ensuite, l'art, je pense qu'il permet aussi une évasion, c'est-à-dire que dans une situation donnée, le fait de pouvoir chanter, le fait de pouvoir peindre, le fait de pouvoir, écrire ou même danser, en fait, ça fait qu'on n'est pas réduit à une maladie, on est d'abord une personne vivante, et ça, je pense que ça fait du bien, et l'art, comme le sport d'ailleurs, mais l'art en particulier permet, je pense, cette évasion dans un univers de beauté, de communion, de communication, d'échange avec d'autres, surtout quand on le fait à plusieurs. Et c'est ça aussi, hein, c'est la dimension sociale. C'est que pour moi, l'art, ça se partage. L'art, ça se fait pas tout seul. Et clairement, quand on chante ensemble, quand on écoute une chanson ensemble, je pense que on se dit réciproquement les uns aux autres que nous sommes vivants et que nous sommes heureux de partager ces instants.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Et ben, je vous en prie, c'était moi qui vous remercie de me les avoir posées et de m'avoir fait parler de ce projet qui me passionne.
Elle laisse au hasard les rêves, les chimères abîmées. Elle laisse le brouillard, la pluie et le goudron.
C'était « Elle laisse » de Colline Réau. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage au cœur d'une tradition qui traverse les générations, celle de la moka, la célèbre cafetière italienne. Avant l'arrivée des machines à café modernes, la moka était déjà présente dans les foyers. Inventée en 1933 par l'ingénieur italien Alfonso Bialetti, elle a rapidement conquis les cuisines grâce à sa simplicité d'utilisation et à la qualité du café qu'elle permet de préparer. Reconnaissable à sa forme octogonale en aluminium, la moka fonctionne grâce à la presse de la vapeur d'eau. Lorsque l'eau chauffe dans la partie inférieure, elle remonte à travers le café moelleux pour venir se recueillir dans la partie supérieure. Le résultat est un café riche en arômes, plus corsé qu'un café filtre mais différent d'un expresso. Mais la moka, ce n'est pas seulement une méthode de préparation du café. C'est aussi un symbole culturel. En Italie, préparer un café avec une moka est souvent associé à un moment de partage, que ce soit au petit déjeuner, après un repas ou lors d'une visite entre amis. Son léger gargouillement caractéristique annonce l'arrivée d'un instant de convivialité et de détente. Au fil des décennies, malgré l'apparition des capsules, des dosettes et des machines automatiques, la moka a su conserver sa place. De nombreux amateurs de café continuent de la privilégier pour son authenticité, son faible impact environnemental et le rituel qu'elle représente. Aujourd'hui, la moka est utilisée dans le monde entier. Elle situe aussi bien les passionnés du café que les personnes en quête d'une préparation simple et traditionnelle. Son design est même devenu une référence dans l'histoire du design industriel. Alors, la prochaine fois que vous entendez le café monter dans une moka, prenez quelques secondes pour apprécier ce moment. Car derrière cette petite cafetière se cache près d'un siècle d'histoire, de savoir-faire et de passion pour le café. L'association Alternatiba se mobilise contre le gâchis lié au passage à Windows 11 de vos ordinateurs. On s'écoute tout de suite.
Votre ordinateur est vieux, mais pas suffisamment vieux pour être jeté. Vous ne pouvez tout de même pas passer à Windows 11. Que faire ? Eh bien, Véronique a la solution ce 2 juillet et ça se passera au QG d'Henriette à partir de 18h. Qu'est-ce qui se passe là-bas ?
Eh bien, on peut installer Linux. Linux, c'est une alternative à Windows et nous, à Alternatiba, on adore les alternatives, forcément. Linux, c'est un logiciel libre, c'est-à-dire que contrairement à Windows, on ne paye pas pour avoir le droit de l'utiliser. Et il permet de remplir exactement les mêmes tâches, en fait. Et dessus, on va aussi mettre des logiciels qui vont aussi être des logiciels libres. Vous en connaissez peut-être quelques-uns, comme Firefox, LibreOffice.
D'ailleurs, on se donne rendez-vous demain pour en parler plus en détail dans Info Club Sandwich avec Véronique et son équipe d'Alternatiba.
À bientôt.
À l'occasion des 125 ans de la loi 1901 sur les associations, pendant tout le mois de juin, le mouvement associatif lance la campagne « La France qui se bat ». Il y aura 15 chroniques de portraits d'associations produites par des radios associatives. On diffusera 3 épisodes par semaine, du mercredi au vendredi, après l'Info Club Sandwich jusqu'au 1er juillet. Aujourd'hui, on écoute Radio Alpha qui a fait le portrait de MGC Dumain.
Depuis 125 ans, les associations font battre le cœur de la France. Avec La France qui se bat, partez à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent partout sur le territoire.
Au cœur de la ville du Mans, la MJC Prévert accueille bénévoles et publics à travers ses ateliers artistiques, son espace de vie sociale et sa radio associative. Elle possède un deuxième espace de vie sociale, la maison de quartier Moustaki, pour les habitants des quartiers nord-est. Enfin, place des Comtes du Maine en centre-ville, un cinéma, les cinéastes. Les actions de la MJC, de son équipe et de ses bénévoles sont donc très diverses, mais répondent toutes à la mission d'éducation populaire. Mais alors qu'est-ce que c'est l'éducation populaire ?
Si on fait au plus simple, c'est l'éducation du peuple, par le peuple, avec le peuple.
Yann Frémaux, directeur de la MJC Prévert.
On appuie notre mission sur le programme des Jours Heureux du Conseil National de la Résistance et notre objet d'y permettre au plus grand nombre de devenir des citoyens actifs d'une démocratie vivante. Nous, on le traduit par permettre au plus grand nombre de vivre des expériences, de vivre de leur passion, de parcourir des chemins soit un peu vagabonds pour approfondir ses imaginaires, soit plus au contraire aller plus à fond dans ses engagements et vivre de ses engagements à fond. Voilà, c'est permettre au maximum de gens de vivre des expériences qui nous paraissent complémentaires à l'école dans des parcours d'apprentissage.
Alors il y a une spécificité de la MJC Prévert, il y a 4 secteurs dont un cinéma et une radio. Comment ces secteurs ils s'inscrivent dans la démarche de la MJC vers les habitants ?
Justement parce qu'elle participe d'un projet cohérent. Cette année, pas mal d'acteurs de la maison ont souhaité justement réaffirmer un projet cohérent dont on a dit qu'il s'articulait autour de 4 ambitions, 4 verbes un peu majeurs. Découvrir, permettre de s'exprimer, permettre d'expérimenter, permettre de coopérer. Et le cinéma, la radio, comme les autres secteurs, participent de ces dimensions-là. Le cinéma, parce qu'il parle la fenêtre qu'il offre sur le monde et parce qu'il permet aussi à plein de gens de s'engager. Des bénévoles s'engagent par les programmateurs, des associations organisent des ciné-débats, etc. Et pour la radio, parce que c'est un espace privilégié d'expression, des pluralités d'opinions, de mise en débat, de prise de conscience du monde, de permettre au plus grand nombre, là aussi, d'affiner son rapport au monde et de tenter, chacun à sa place, de le transformer un petit peu. On est dans un contexte un peu particulier où il y a pas mal de pression quand on tourne nos projets. Alors il y a des pressions économiques puisque les finances publiques sont extrêmement mises sous tension par une lecture de l'économie publique qui sont liées à la dette ou à ce genre de considérations qui fait qu'un certain nombre d'administrations ou de collectivités réduisent énormément leur soutien à nos secteurs. La pression que l'on a et l'engagement qui nous est demandé à prouver, justifier l'intérêt et l'impact de ce qu'on fait, à l'économiser, etc., rendent effectivement nos engagements plus délicats et parfois nous décalent un peu de ce que nous aimerions être notre engagement principal. Là encore, hein, ouvrir les portes au plus grand nombre pour faire des tableaux Excel et se prendre des restrictions financières qui peuvent nous mettre en difficulté.
Donc si demain les missions de la MJC étaient compromises, menacées, si elles étaient plus possibles, qu'est-ce que ça produirait comme effet sur le territoire ?
Évidemment, une capacité de levier bien moindre. Avec tout ce que nous faisons, nous, c'est de faire des effets leviers pour des enfants, des jeunes, des adultes, des bénévoles, des militants, des familles, etc. Et ben, ça limite l'effet de levier, c'est-à-dire notre capacité à accueillir, notre capacité à accompagner, notre capacité à former, notre capacité à faire vivre des expériences. Toute attaque et toute diminution de notre capacité d'action grève notre possibilité de faire levier.
La France qui se bat, une série au cœur des associations. Pour découvrir la campagne et vous engager, rendez-vous sur www.lafrancequi-se-bat.fr.
Voilà, c'est déjà la fin de votre Info Club Sandwich. On se quitte en musique avec Walk on the Wild Side de Lou Reed. Mais restez à l'écoute de Radio Campus Amiens, car juste après, retrouvez le direct des 125 ans de la loi de 1901. Pour l'occasion, le mouvement associatif et France Générosité organise une soirée de célébration à Paris avec 3 heures de plateau radio en direct en collaboration avec Aligre FM et le média associatif Le Moment. Au programme, nombreuses personnalités du monde associatif, acteurs de la solidarité et des surprises à venir. Merci de nous avoir écoutés et à demain sur Radio Campus Amiens. Bonne journée à toutes et à tous.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot 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 doot. Do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe,
take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets.